Des femmes.
Des hommes.
Des droits.
Une chronique de la Ligue des droits de l'homme de l'Ain. Amis auditeurs, bonjour, Jean-Jacques Chavanne avec vous. Bienvenue pour cette nouvelle chronique. Aujourd'hui, je reçois Philippe Abel et Gérard Perret de Amnesty International, section de l'Ain. Bonjour à vous deux.
Bonjour. Bonjour.
Alors aujourd'hui, on va parler de votre organisation. Amnesty International, c'est une énorme galaxie, mais pouvez-vous nous en expliquer un petit peu quels en sont les rouages, hein, Philippe Abel?
Oui, alors c'est effectivement une galaxie, enfin une grosse organisation non gouvernementale. Amnesty International est née en 1961. En 1961, des étudiants portugais ont porté un toast à la liberté et ont été emprisonnés pour ça. Il y a un avocat londonien, et c'est un peu la marque d'Amnesty, la solidarité internationale, qui a trouvé ça tout à fait inacceptable et qui, dans un journal qui s'appelle L'Observer, a lancé un appel pour les prisonniers oubliés qui a permis de les faire libérer. Donc ça, c'est en 1961, l'histoire internationale d'Amnesty International.
Appel pour les prisonniers oubliés, mais et donc ça s'est étendu dans le monde?
Alors ça s'est étendu dans le monde, hein, effectivement, parce qu'au début c'était londonien, après ça a été européen. Et maintenant on a des sections dans 70 pays du monde, hein, on a 10 millions de bénévoles dans 70 pays du monde, dont pas que les pays occidentaux, hein. Je pense que c'est important de le dire.
Oui.
Donc il y a également les pays du Sud, on peut penser à l'Inde et d'autres pays où Amnesty International a des sections. Ce qui veut dire que quand on définit nos axes directeurs, on y reviendra, on prend en compte la sensibilité aussi de ces pays-là. Ce n'est pas franco-français, ce n'est même pas simplement européen, c'est mondial.
Alors, vous avez dit, quand on définit nos ex-directeurs, qu'est-ce que vous entendez par là?
Alors, en fait, Amnesty International, c'est un mouvement indépendant de toute idéologie politique ou religieuse, qui a un idéal quand même, hein, c'est de faire respecter la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et notamment lors de notre dernière assemblée mondiale, donc pour la période 2022-2030, on a défini deux axes qui correspondent encore une fois à la préoccupation de l'ensemble de nos militants dans tous les pays du monde que j'ai cités. Le premier, c'est sur la liberté d'expression, de réunion, d'association pacifique et de manifestation, sans laquelle rien n'est possible. Et la deuxième, c'est l'égalité, la non-discrimination, quel que soit son genre, quelle que soit son orientation sexuelle, quel que soit alors ce qu'on appelle la race, hein, d'un terme tout à fait inapproprié au niveau du droit international. Et puis le troisième, c'est effectivement quelque chose qui est devenu incontournable, c'est la justice et l'urgence climatique.
Donc trois axes directeurs en fonction de l'actualité. Donc vous avez eu plein d'autres axes directeurs depuis la création d'Amnesty International, mais en fonction de l'époque, donc vous variez vos axes directeurs, et aussi en fonction de l'ensemble des pays que constitue Amnesty International.
Tout à fait.
Alors, pour évaluer justement ces atteintes aux droits humains, comment procédez-vous?
Oui, alors ça, c'est une question essentielle, hein. Notre impartialité fait qu'à chaque fois qu'on donne des informations, qu'on fait des campagnes, c'est sur des informations, sur des faits qui sont validés et qui sont fiables. Et pour avoir des faits validés et fiables, on a des chercheurs. L'essentiel d'Amnesty tourne sur la recherche. Et on a une centaine d'équipes de chercheurs qui travaillent dans 70 pays du monde et qui font donc des enquêtes sur la violation des droits humains, qui recoupent les témoignages. On a des équipes aussi de crise qui font des analyses satellites, qui aussi étudient les documents et les mesures discriminatoires ou qui constituent des violations des droits humains dans les pays. Et on sort une information, on fait une campagne, quand c'est validé par nos chercheurs.
Donc il y a un recul quasiment scientifique, et ensuite il y a une sorte de ténacité. J'ai lu votre credo qui dit que l'important, ce n'est pas seulement de participer, puisqu'il s'agit des droits humains, mais c'est de gagner. Alors, est-ce que vous avez une victoire à laquelle vous pensez maintenant?
Oui, alors effectivement, on peut penser à plusieurs victoires. Alors, d'abord, les conventions internationales, quand même. Hein. Je pense à la torture, je pense sur le commerce des armes, je pense à la peine de mort et autres. Et puis également, quand même, des prisonniers qu'on a pu contribuer à faire libérer, pour lesquels la torture a pu être évitée ou pas condamnée à mort, dont un prisonnier adopté par Amnesty International, le groupe de Bourg-en-Bresse, qui est Ibrahim Ezzeldine, qui était un chercheur sur les droits humains en Égypte et qu'on a fait libérer alors qu'il était torturé et emprisonné en Égypte.
Alors là, vous venez de parler d'une personne qui n'est pas sous le feu des projecteurs.
C'est l'ADN d'Amnesty International, les prisonniers oubliés. Alors, on en a sous le feu des projecteurs. Hein, on parlera peut-être de Salah Hamouri, on en a d'autres. Hein. Mais aussi, on s'attache aux prisonniers oubliés, ceux dont personne ne parle justement et qui n'en sont pas moins victimes de violations des droits humains parce qu'ils se sont battus pour leur dignité, pour la liberté, dont Ibrahim Ezzeldine et
donc,
bien d'autres.
Une personne qui n'est pas sous le feu des projecteurs et dont s'empare votre section locale.
Voilà.
Alors, c'est une façon de fonctionner d'Amnesty International.
Voilà, c'est une façon de fonctionner d'Amnesty International. Alors, parmi l'ensemble des personnes victimes des violations des droits humains dont on parle, les groupes adoptent spécifiquement une personne de façon à la défendre, alors juridiquement, mais à défendre moralement, soutien aussi psychologique auprès de sa famille. Une personne qui est adoptée donc par le groupe, qui est en liberté d'opinion, hein, qui n'a pas fait preuve de violence, ça c'est la base, pour la soutenir effectivement dans la durée. Et c'est un travail de longue haleine, de plusieurs années et sur le fond. Et donc on avait adopté le prisonnier égyptien dont je vous ai parlé avec d'autres groupes et puis d'autres groupes adoptent d'autres prisonniers tels que ceux-là.
D'accord, vous êtes nombreux donc dans la section à vous battre sur le plan local ?
Alors, sur le plan local, je vais parler des membres actifs, hein, c'est ce qui est le plus significatif au niveau des militants. On est une douzaine de membres actifs militants au niveau du groupe de Bourg-en-Bresse. Voilà.
Vous avez beaucoup parlé, je vais peut-être passer le ballon à Gérard Perret. Bonjour Gérard Perret à nouveau.
Bonjour.
Et, Gérard Perret, il y a aujourd'hui donc, une motivation donc, sur un combat dont vous allez nous parler maintenant.
Oui, je vais vous parler donc d'une des campagnes mondiales aujourd'hui menées par Amnesty International, qui est reliée en France, bien sûr, qui est « Ramenons la Coupe du Monde à la raison ». Alors, je précise tout de suite qu'Amnesty International ne boycotte pas la Coupe du Monde et le football, le sport en tant que tel, mais simplement ses impacts commerciaux, humains. Voilà, donc on veut bien ramener la Coupe du Monde à la maison pour la France, mais surtout à la raison. Alors, qu'est-ce qui se passe depuis 2010 et l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar? On a eu 2 millions de travailleurs migrants venus principalement du sous-continent asiatique, c'est-à-dire Inde, Népal, et puis des travailleurs aussi venant d'Afrique. Et le résultat, au bout d'une dizaine d'années de construction de stades, d'hôtels, etc., d'infrastructures, ce sont 6500 morts qui ont été réexpédiés de manière anonyme au Qatar et des conditions de vie au quotidien très dégradées sur place avec un non-respect des droits humains.
Qu'a-t-on fait de ces 6500 morts ?
Alors, ces 6500 morts...
Ils sont passés sous le boisseau ?
Alors, il faut savoir qu'au Qatar, il y a des lois, comme dans tout pays. Il y a une loi qui a été abolie, qui était la kafala, qui consistait à ne pas pouvoir quitter un employeur et éventuellement ressortir du territoire qatari sans autorisation de l'employeur et de l'État. Bien que cette loi ait été abolie, elle se pratique toujours. Hein. Et on a donc, lorsqu'il y a des travailleurs qui décèdent, puisque c'est surtout dans le secteur du bâtiment travaux publics, secteur très accidentogène, donc ces travailleurs sont renvoyés de manière totalement anonyme. Il faut savoir qu'au Qatar, il n'y a pas d'enquête. Donc sans enquête, il n'y a pas de justice, et sans justice, il n'y a pas de vérité.
Donc ils sont morts sans hommage, sans vérité, sans justice.
Tout à fait, avec mort naturelle, crise cardiaque, voilà.
Donc vous vous employez à réveiller les consciences ?
Voilà, on s'emploie à réveiller les consciences. Donc factuellement, on s'emploie surtout à dénoncer le non-respect par le Qatar de ses propres lois vis-à-vis des travailleurs migrants. C'est-à-dire, par exemple, un code du travail qui dit 8 heures par jour sur 6 jours, c'est-à-dire 48 heures par semaine, alors qu'ils en effectuent 12 heures sur 7 jours sur 7, sans interruption, sans arrêt. Depuis des années, les gens travaillent sans avoir un jour de repos. Hein, il faut bien en être conscient. C'est de l'esclavage dans des conditions quotidiennes très dégradées, surpopulation du logement, pas d'accès à des douches, des toilettes, beaucoup et de l'insécurité au travail, c'est-à-dire pas de consignes de sécurité qui sont données par toutes ces entreprises qui sont faites des sous-traitants très souvent, par exemple, de grandes fédérations internationales comme la Fédération française de football.
Alors, quel objectif vous donnez-vous dans cette dénonciation ?
Alors, dans cette dénonciation, notre objectif, c'est premièrement d'arriver à ce que le Qatar, qui a voulu nous vendre du rêve, hein, voilà, il faut bien revenir à la réalité. Donc, face à ce rêve vendu par le Qatar, on voudrait donc un objectif de boycott commercial, c'est-à-dire des retransmissions. On voudrait surtout que les droits humains soient respectés au Qatar. C'est-à-dire, la FIFA, la Fédération internationale de football amateur, dans son budget, a prévu de dégager 6 milliards de bénéfices sur cette manifestation, 6 milliards d'euros. Et sur ces 6 milliards, Amnesty International demande à ce que 400 millions soient réservés, une indemnisation des travailleurs migrants décédés, entre autres.
Mais est-ce que vous pensez que vous allez être écouté ?
Alors, être écouté, on fait
pas... Et suivi.
Et suivi. Ouais. Alors, bon, c'est vrai qu'on agit toujours à Amnesty International avec beaucoup de pétitions. On fait du tract sur la voie publique pour faire envoyer par les gens des lettres aux footballeurs de l'équipe de France pour leur faire prendre conscience de la différence de traitement quand ils vont arriver dans leur luxueux hôtel, etc. Et surtout, je pense qu'on a participé quand même à une vague de fond qui se traduit peut-être par le reportage, très excellent reportage récemment diffusé sur France 2 dans Complément d'enquête, hein, où on voit qu'il y a quand même aujourd'hui une prise de conscience du président de la Fédération française de football qui revient un petit peu sur ce qui a ouvert ses yeux, qui a quitté ses œillères et qui donc va envoyer donc une délégation prochainement pour vérifier les conditions de travail de tous les travailleurs migrants employés par ses fournisseurs, prestataires, partenaires. L'objectif est simplement de faire en sorte que des droits humains ne soient pas bafoués et respectés dans ce pays, le Qatar, comme dans d'autres.
Très bien. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter par rapport à cette action ?
Non, je ne vois pas. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Hein, c'est-à-dire
oui.
Je ne vais pas vous parler des aspects environnementaux corollaires. Je ne vais pas vous parler non plus des conditions d'attribution de la Coupe du Monde en 2010, on s'aperçoit qu'il y a eu des négociations entre l'État français, hein, Coupe du Monde, je ne veux pas dire contre vente prochaine de Rafale, etc., ou rachat du club du PSG, tout ça vous le découvrirez dans le reportage que j'ai mentionné auparavant.
Donc voilà, un événement qui remue beaucoup d'autres événements qui y ont précédé.
Oui, et qui doit amener quand même à faire prendre conscience que le footballeur, en dehors d'être un sportif très bien rémunéré, se doit aussi d'avoir une conscience un petit peu éclairée.
Politique éclairée.
Voilà.
Philippe Abel, autre combat que mène votre section.
Oui, alors je souhaitais vous entretenir d'un rapport qui a fait beaucoup de bruit. C'est le rapport concernant l'apartheid commis par l'État israélien vis-à-vis des Palestiniens. Je dis bien par l'État israélien.
Là, vous employez un terme
qui est très fort.
Alors,
déjà peut-être au préalable, oui. Hein, pour bien cadrer les choses. D'une part, ce rapport sur l'apartheid, on n'a pas sorti le mot apartheid à la légère. Hein, c'est quand même un rapport de 4 ans de travail avec une expertise juridique fine et des enquêtes terrain. Première chose. La deuxième chose aussi, puisqu'on a été accusé d'antisémitisme par l'État israélien, il ne s'agit pas de s'en prendre au peuple juif. J'ai d'ailleurs, comme tous les militants d'Amnesty, en horreur l'antisémitisme, comme le racisme et la xénophobie. Il s'agit de critiquer des actions d'un État de violation des droits humains, qui est l'État israélien, vis-à-vis de la population palestinienne. La preuve en est d'ailleurs que notre rapport a été soutenu par un certain nombre d'organisations de juifs israéliens qui ont d'ailleurs été traités de traîtres par leur propre gouvernement. Hein, donc effectivement, de ce point de vue-là, il faut bien caler les choses sur le sens de ce rapport.
Alors, quel est le contenu de ce rapport ?
Alors déjà, il faut peut-être quand même définir l'apartheid. Oui. Hein. Brièvement, l'apartheid, c'est défini par 3 textes. Une convention de 65 sur l'élimination de toutes les formes de racisme, de 73 sur l'apartheid, et puis sur la Cour pénale internationale de justice de 98. L'apartheid, c'est 3 choses. La première, un système d'oppression et de domination d'un peuple par un autre. En l'espèce, la population juive israélienne, dominant et opprimant, sous couvert de l'État d'Israël, les Palestiniens. La deuxième chose, c'est des actes inhumains. Et effectivement, Amnesty a répertorié beaucoup d'actes inhumains à l'encontre des Palestiniens, depuis les détentions administratives, la dépossession de terres et la ségrégation territoriale, des lois également discriminatoires ne donnant pas les mêmes droits aux Palestiniens qu'aux populations juives israéliennes. Et la troisième chose, parce qu'en droit international, on est toujours très juridique à Amnesty, hein, c'est ce qui fait notre crédibilité aussi, en droit international, il faut toujours une intentionnalité. Or là, l'intentionnalité, c'est l'intention de l'État d'Israël de maintenir ce système d'oppression et de domination. Donc tout ça est constitutif de ce qui est un crime contre l'humanité, qui relève de la Cour pénale internationale de justice, d'ailleurs, qui est le crime d'apartheid.
Et alors, Vous avez un combat spécifique également concernant un avocat ?
Alors, on a un combat spécifique, mené d'ailleurs par un collectif de soutien de cet avocat, coordonné par l'association France-Palestine, qui est Salah Hamouri. Alors, Salah Hamouri, c'est un avocat franco-palestinien sur lequel on a une attache particulière parce que sa maman est née à Bourque, en fait. Hein, et il est détenu de par une détention administrative. Une détention administrative, c'est-à-dire sur un ordre de l'armée israélienne, sans qu'aucune charge ne lui ait été notifiée. Et il se trouve dans une prison israélienne avec d'autres détenus palestiniens. Son seul crime, c'est en fait d'avoir participé à une association, d'être même un des leaders de l'association Adamer qui défend les prisonniers palestiniens en prison. Et pour ce seul crime-là, qui n'en est évidemment pas un, hein, il défend question de défense des droits humains, il est détenu et suivant une détention administrative qui est reconductible en dehors de toute procédure pénale et sans qu'aucune charge n'ait été portée à sa connaissance, ce qui est bien sûr totalement inacceptable.
Donc ça, c'est un dossier que vous suivez avec d'autres collectifs.
Qu'on suit dans le cadre d'un collectif d'associations.
Bien. Eh bien, écoutez, je pense qu'on aura pu parler d'Amnesty International, de vos combats aujourd'hui. Un dernier mot, quels sont vos espoirs aujourd'hui à vous deux ? Quels sont vos espoirs aujourd'hui à vous deux ? Peut-être Philippe, si vous...
Écoutez... Ouais. Mon espoir, c'est celui d'un monde plus juste. Et puis, vous savez, quand je vois, finalement, il faut être bien modeste, le combat qu'on mène, nous, en France, on ne prend pas trop de risques par rapport à d'autres. Mais quand je vois des gens qui sont torturés, qui sont emprisonnés et qui, malgré tout ça, continuent à résister, continuent à s'opposer, continuent à dire non, ça me fait espérer dans l'espèce humaine.
Gérard ?
Oui, moi j'ai le même espoir effectivement que les gens, de manière globale, résistent plus demain qu'aujourd'hui, parce que finalement le monde il tend à se radicaliser, à se brutaliser, et on voit qu'il y a beaucoup d'États, en France aussi, hein, qui prennent des mesures de plus en plus répressives. Je ne veux pas déborder sur un autre sujet comme la loi sur la sécurité globale qui a été prise l'année dernière, mais voilà, on a une dérive sécuritaire dans tous les États de la planète, et c'est inquiétant, je trouve.
Merci, messieurs. Peut-être une adresse mail pour vous joindre, pour vous rejoindre.
Oui, alors, effectivement, sur l'adresse mail, alors, déjà, rapidement, il y a le site national d'Amnesty, Amnesty International France, et notre boîte mail, qui est bourg-en-bresse@amnestyfrance.fr.
Merci beaucoup.
Merci.
Et à la prochaine fois.
Merci.
Des femmes.
Des hommes. Des droits.
Une chronique de la Ligue des droits de l'homme de l'Ain.